Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. L'accouchement naturel, voilà un vaste sujet. Souvent perçu comme douloureux, voire insurmontable, il est trop rarement encouragé. Et oui, si on peut se passer de douleur grâce à la péridurale, pourquoi s'en priver ? Lucie, l'illustratrice, a sorti le livre « Naissance, découvrez vos super-pouvoirs », un livre qui nous réconcilie avec notre capacité à nous les femmes de pouvoir donner la vie sans avoir un accouchement médicalisé. Dans cet épisode, Lucie nous raconte ses deux accouchements naturels, le premier en chambre nature et le deuxième qui est arrivé sans prévenir chez elle, dans sa salle de bain. Elle nous parle de ce que la société patriarcale a imposé aux femmes comme leur manque de capacité à accoucher naturellement. Sans jamais juger la possibilité d'un accouchement par péridurale, Lucille aimerait juste que chaque femme puisse accoucher comme elle le désire, en pleine connaissance de ses capacités, ou comme elle le dit, de ses super-pouvoirs. Bonne écoute. Bonjour Lucille.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Avec plaisir.
Alors, tu es la maman de deux enfants.
Oui.
À quel moment est arrivé le sujet de la maternité dans ton couple ?
Assez vite, en fait. J'avais pas 25 ans, hein, donc quand j'ai rencontré Fabien. Et assez vite, je suis partie en voyage. Ça faisait un mois seulement que je l'avais rencontré. Je partais en voyage pour un mois et demi avec une amie. Donc, dès le départ, on a été séparés pendant un mois et demi. D'accord. Et à ce moment-là, on s'envoyait beaucoup d'emails. Et il m'avait envoyé un email en me disant qu'il imaginait plus tard des enfants qui jouent. Ah. Et je m'étais dit, attends, mais il est fou ce type, il va trop vite. Et en même temps, ça m'avait fait hyper plaisir, en fait, qu'il écrive ça. Et très vite, il en a eu envie. Il est plus âgé que moi aussi. Donc, je me disais, mais non, c'est trop tôt. Et puis, j'ai réalisé que, finalement, le moment parfait, c'est pas fou. C'est jamais. Et que faire des enfants, si on y réfléchit trop, finalement, je pense qu'on n'en fait pas. Donc, banco, au bout d'un an et demi qu'on était ensemble, j'étais enceinte, quoi.
T'avais quel âge, du coup ?
J'avais 32 quand je suis tombée enceinte, 33 quand Lou est née.
D'accord. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Mais c'était un peu idéal, parce que du coup, quand on n'attend pas trop longtemps, on n'a pas eu le temps de se fâcher avec l'autre. On est encore très très amoureux. Non, je plaisante, on est toujours très amoureux même maintenant. Hein. Mais là, je venais juste de déménager au Pays Basque pour le rejoindre. Donc on habitait une petite bicoque face à l'océan, dans un endroit un peu isolé, entre Saint-Jean-de-Luz et Guétari. Je voyais littéralement l'océan depuis la fenêtre, donc j'étais enceinte, j'étais amoureuse, j'avais l'océan à ma fenêtre, ce qui était un fantasme d'un jour habiter si près de l'océan, je n'osais même pas imaginer que ce serait possible. Donc la grossesse s'est passée de manière idéale, quoi. Je faisais des grandes marches le long de la mer pendant des heures, parce que j'avais entendu que marcher ça faisait du bien quand on était enceinte, etc. Ça allait très bien.
Et alors, comment tu t'es renseignée, en fait, sur l'accouchement naturel ? C'était un désir depuis le début ? Comment c'est venu ce...
Non, alors en vérité, j'avais pas d'amis proches qui avaient accouché, ou qui avaient... Mes amis proches qui avaient des enfants, c'était des mecs.
D'accord.
Donc j'étais moins proche de leur chérie, et j'avais pas parlé de leur accouchement avec elle. Et j'avais pas d'idée très précise, quoi. Pour moi, c'était aller dans une maternité, aller voir son gynéco, aller dans une maternité, accoucher en position, les pieds dans les étriers, quoi. Pousser, madame, pousser, comme on voit dans les films, quoi. Yeah. Et un soir, dans notre petit jardin, là, il y a des amis de Fabien qui sont venus et qui ont raconté la naissance de leur fille. Bon, en plus, ils savent très bien raconter, quoi. Ils sont des gens... Et donc, ils ont parlé de leur sage-femme et de l'accouchement dans une petite salle avec une lumière tamisée, où ils étaient tout seuls avec leur sage-femme dans un coin. Et la façon dont ils en ont parlé, ça m'a vachement interpellée. Je me suis dit, mais ah bon ? Et ils m'ont donné le nom de la sage-femme, de l'endroit où c'était possible, en tout cas, de la maternité. Et je me suis renseignée, j'ai trouvé le nom de la sage-femme qui faisait cet accompagnement-là. Et ben, je l'ai appelée, je me souviens, plein de reprises, parce qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Et puis on s'est dit avec Fabien, bon, comme on avait quand même certaines appréhensions, Fabien en particulier, il s'imaginait que ce serait vraiment accoucher sur un sol en terre battue, avec une famille hirsute qui voit des clochettes autour des chevilles. Quelque chose qui l'effrayait un peu, quoi. Je dis, bon, écoutons la rencontre, et puis on voit en fonction de cette rencontre si on se sent en confiance avec elle, si ça lui fait. Enfin voilà, on l'a rencontrée, on voit, quoi. Et en fait, on l'a rencontrée et tout de suite, on s'est senti hyper à l'aise avec elle. Elle avait les pieds sur terre, hyper chaleureuse, hyper drôle aussi. Ça compte beaucoup pour nous, je crois. Le fait d'avoir le même sens de l'humour, ça crée des liens directs. Et donc, je me suis fait accompagner par elle.
Et donc, le concept, c'est quoi ?
Le concept, ça s'appelle l'accompagnement global. C'est-à-dire qu'on est, au lieu d'être suivi par un gynécologue, on est suivi par une sage-femme du début à la fin, qui fait tout le suivi de la grossesse, qui fait les ordonnances pour les échographies, etc. Et ensuite, le jour de l'accouchement, c'est elle qui se déplace pour assister à l'accouchement. Et elle bénéficie d'une pièce dans le cadre d'une maternité qui est démédicalisée. Donc en fait, c'est comme une chambre d'hôtel où il n'y a pas d'étrier, de matériel médical particulier. C'est une chambre normale dans laquelle il y a une petite lumière et elle vient là accompagner le couple qui accueille le bébé le jour de la naissance. Et si jamais il y a un souci, en fait, on a juste le couloir à traverser et on se retrouve dans une salle, dans un bloc, comme ailleurs, quoi.
Et du coup, t'es installée comment ? Comment ça ? C'est pas sur les étriers
Ah, comment on est installée ? Ouais. Bah justement, une des choses que j'ai appris avec les cours de préparation à la naissance qu'elle nous a donné, c'est qu'il n'y a pas une position pour accoucher. On n'a pas une façon de s'installer. Et que ce qui est très aidant, c'est de pouvoir être en mouvement, en fait. Donc il y a dans la pièce il y a un lit mais on peut choisir complètement la façon dont on accouche, la position dans laquelle on accouche, et on n'accouche pas dans une position, en fait on bouge au fur et à mesure de l'accouchement. Après pendant les cours de préparation à la naissance, elle nous parle aussi beaucoup des positions qui sont aidantes pour avoir moins mal ou pour aider le bébé à progresser dans le bassin. Donc c'est des positions en étirement, en fait. Donc on peut se suspendre, soit au cou de son amoureux, de la personne qui est avec nous, soit parfois à des tissus qui sont accrochés au plafond. Donc dans cette salle, il y avait cette possibilité-là, que j'ai pas du tout utilisée, mais il y a cette possibilité-là. Et il y a aussi un bassin, en fait, pour pouvoir se mettre dans l'eau, parce que ça aide aussi à apaiser les douleurs, les contractions, d'être dans l'eau, en fait.
Et du coup, tu l'as trouvé facilement, toi, c'était par le couple d'amis.
Oui.
Est-ce que ça se trouve facilement ? Est-ce que c'était près de chez toi ?
Alors non, c'était ni près de chez moi et ça ne se trouve pas facilement, en fait. C'est quelque chose que je regrette profondément et que je n'arrête pas de... qui me peine énormément à chaque fois que j'entends des gens parler de leur accouchement. C'est qu'on a l'impression d'avoir le choix de la façon dont on accouche. Par exemple, dans une maternité classique, souvent, on nous demande un projet de naissance. Les femmes disent si elles veulent une péri ou si elles n'en veulent pas. Mais après, elles ne sont pas mises dans les conditions pour pouvoir accoucher sans péridurale. Souvent, c'est impossible, quoi, dans un milieu médicalisé, d'accoucher sans péridurale. C'est très, très compliqué. Parce que les choses ne sont pas mises en place pour que ce soit facile de s'en passer, en fait. Donc, les femmes qui se disent « Non, je ne veux pas de péridurale » et on leur donne une sale nature, entre guillemets, et puis finalement c'est une salle où elles sont laissées toutes seules sans avoir été préparées, parfois c'est très compliqué, enfin, on a le temps de flipper, quoi. Moi j'ai eu la chance d'avoir la rencontre avec cette sage-femme, vraiment. Mais si on veut se renseigner pour avoir accès à ce qui s'appelle un plateau technique, en fait, c'est-à-dire une chambre démédicalisée au sein d'une structure maternité classique, il faut appeler les maternités, appeler les sages-femmes libérales, aller vraiment à la pêche à l'information, quoi.
Et toi, c'était loin de chez toi ?
C'était à une heure de transport, en fait. Une heure de voiture. J'habitais à Saint-Jean-de-Luz, donc, à l'époque. Et c'était même pas au Pays Basque, c'était en Béarn, à Orthez. Il y avait une heure de voiture entre chez moi et la maternité. Ce qui est pénible.
Un peu flippant.
Et un peu flippant.
Alors, comment s'est passé ton accouchement ?
Bah, super bien. La sage-femme m'avait expliqué comment accueillir les contractions, voilà, comment respirer pour que ce soit pas agréable, mais que ce soit pas pénible en tout cas. Enfin, moi, je l'ai vraiment pas mal vécu, les contractions. J'ai senti la première à 4h du matin. Je me suis dit, ah tiens, celle-ci, ça c'est une vraie contraction. Je me suis recouchée, puis j'ai fait la journée exactement comme j'avais prévu de la faire. Comme on a approché du terme et que les gens m'appelaient beaucoup en me disant, ah ben, c'est pour quand et tout. J'avais pas envie de répondre à cette question. J'avais rempli la journée, on avait réservé un resto, on est allé manger au restaurant. J'avais des contractions au restaurant. Après, on est allé se promener au bord de l'océan. Et puis j'avais des contractions aussi, mais vraiment, je faisais ma vie normalement et c'était super, quoi. Ouais. Puis après, quand même, on devait aller au cinéma. Là, j'ai dit, ouais, le cinéma, je sais pas, je le sens pas trop. Et on est rentré à la maison et je me suis dit, tiens, mais alors, j'avais appris en cours de préparation à la naissance que quand on a des contractions, pour voir si ce sont vraiment des contractions de travail qui sont lancées, c'est bien de prendre un bain chaud. Et si elle continue dans le bain chaud, c'est que, bon, normalement, le travail est vraiment lancé, quoi. Parce que si ce sont des petites contractions, ça les apaise. Et donc, j'ai pris un bain, et je me suis dit, ah, non, en fait, elles s'en vont pas. Donc, j'ai appelé la sage-femme et on s'est donné rendez-vous pour aller à la maternité. Et là, le trajet était un peu compliqué, quand même. J'étais vraiment focalisée sur mon corps. Enfin, je dis compliqué, non, mais... c'était vraiment un travail, quoi. C'était, il y avait plus d'ambiguïté, quoi. Donc j'accueillis les contractions dans mon corps. Je me souviens très très bien de ce trajet. Ça a duré une heure, c'était la nuit, et donc à chaque fois que j'ouvrais les yeux entre deux contractions, je voyais les phares des voitures en face. Puis je refermais les yeux comme ça, c'était une espèce de transe. Et quand je suis arrivée à la maternité, en revanche, là j'ai vraiment paniqué, et là j'ai commencé à avoir mal. C'est-à-dire qu'avant... Avant ça, j'étais vraiment focalisée sur ce qui se passait dans mon corps et tout allait très bien. Et à la maternité, il y avait des massages femmes n'étaient pas là, donc ça me plaisait pas. Il y avait de la lumière très crue, on m'a mis un cathéter, etc. Et tout ça, ça a fait que j'ai vraiment eu peur, en fait. J'avais mal, je paniquais. Mmh. Je me souviens même avoir dit « au secours, au secours !» Et ce qui me fait vraiment halluciner encore maintenant, c'est que... À un moment donné, j'ai entendu la voix de ma sage-femme dans le couloir, et là, j'ai plus du tout eu mal. Ah oui. C'est instantanément. Je suis autorisée à me remettre sur mon corps, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a dit, c'est bon, elle est là.
Elle est là, tout va bien, je vais pouvoir accoucher comme je veux.
Voilà, c'est ça. Et elle m'a dit, elle m'a juste dit, bye entre les contractions.
Ah oui.
Ouais.
Ok.
Et je ne sais pas. C'est... Et très rapidement après, le bébé était là, en fait. Donc et là c'était génial parce que ça vous permet vraiment de prendre votre temps. Le bébé arrive, le papa est là avec vous, la lumière est tamisée, on s'allonge dans le lit, on le prend sur soi. La première tétée, on coupe pas le cordon tout de suite. On a même eu plusieurs jours avant de le laver, en fait. Et moi je m'attendais à ce qu'il soit plein de glaire ou de sang, enfin j'imaginais. Et en fait non, il était tout lisse, tout... C'était vraiment différent de ce que j'avais vu dans les films et tout ça. Mmh.
Et alors après, tu vas dans un bloc pour justement couper le cordon et...
Non. En fait, on reste là toute la nuit dans cette chambre démédicalisée, cette chambre d'hôtel. La sage-femme, au bout d'un moment, s'en va, mais elle reste au début jusqu'à ce que le placenta soit sorti. Et puis, on fait couper le cordon au papa. Enfin, là, c'était ça, en tout cas. Et puis je te dis, on est restés tous les trois, il y avait la place pour que le papa dorme aussi là, toute la nuit, quoi. On a vu l'équipe médicale et tout ça que le lendemain, en fait, pour l'examen du bébé et tout.
Mais, ouais. Et tu restes combien de temps après à la maternité, alors, dans une chambre lambda?
Ouais, là c'était un premier bébé, donc en fait c'était vraiment une maternité où tout le personnel était quand même formé à la physiologie, à l'allaitement, etc. Une toute petite maternité, il y avait moins de 400 naissances par an. Mmh. Et le lendemain, donc, j'ai été mise quand même dans une chambre plus classique, quoi. libérer la place pour les mamans qui arrivaient après moi dans la salle des médicalisés. Et là, c'était à mon choix. Soit je rentrais chez moi directement et ma sage-femme venait faire les visites à la maison. Okay. Soit je restais dans la maternité quelques jours. Et on est resté dans la maternité quelques jours, en fait. C'était tellement... une ambiance tellement sereine, toute petite maternité et tout, et que pour la sage-femme en plus c'était plus pratique de venir nous rendre visite là. Mmh. Et en plus de ça, j'ai une de mes amies, enfin, que j'ai rencontrée lors des cours de préparation à la naissance chez ma sage-femme qui a accouché 2 jours plus tard, donc elle était là aussi, on les a croisées à la maternité, enfin voilà, c'est chez nous quoi.
Vous avez investi les lieux.
Voilà.
Et alors, le retour à la maison, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
Je crois que vraiment, cet accouchement où j'ai eu l'impression que c'était mon bébé, moi et Fabien qui étions... on est reparti de là, on était une équipe, quoi. Vraiment, lui, il avait conduit super bien pour le trajet. Le bébé, il était arrivé hyper bien. Enfin, je sais pas, je me suis sentie forte de cet accouchement, le fait de... Je me suis sentie capable, quoi. Donc le retour à la maison a été vraiment pas du tout douloureux, quoi. En plus, la sage-femme est venue nous voir aussi chez nous très vite. Donc ça s'est fait de manière très très fluide. Au début, moi, j'ai les 3 premiers mois, les 3 premiers mois de mon bébé, c'était un rêve, quoi. Ma petite maison au bord de l'océan, le poêle à bois, c'était l'hiver, c'était parfait pour cocooner. Il y a eu 2 moments un peu difficiles. C'est le moment où le papa est retourné travailler. Là, vraiment, c'était nul. Là, il faut vraiment des congés paternité plus longs, quoi. Ouais. Ça, ce qui a créé d'office une différence, quand même, de lien entre la mère et son enfant et le père et son enfant, je trouve. On a besoin de vous, les papas ou les compagnes, auprès de nous, quoi. Et le deuxième moment difficile, ça a été mon retour au travail. Là, moi, je m'étais imaginé avant la naissance de mon bébé que, bon, voilà, avoir un enfant, c'est pas ça qui va me changer la vie, hein. Les enfants, ils s'adaptent à tout, hein, de toute façon, hein. Donc, bon, au bout de 3 mois, je le mets chez une nounou, je l'avais choisi, et puis, moi, je me remets à travailler comme avant. Et c'est ce que j'avais prévu, c'est pourquoi j'étais programmée dans ma tête. Et en fait, il a eu 3 mois, et j'avais l'impression qu'il était vraiment trop petit, quoi. Et j'étais vraiment en fusion avec lui, et c'était hyper dur pour moi de le laisser à une étrangère. Et du coup, c'était très compliqué dans ma tête, quoi. Je me dis, mais non, enfin, une femme, il faut que ce soit indépendant, il faut que ça travaille, il faut que ça rapporte son argent propre. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On va pas s'épanouir qu'à travers éduquer les enfants. Enfin, et je pense encore. Et d'un autre côté, c'était vachement dur pour moi de retourner au boulot à plein temps. Et en plus de ça, le papa pouvait pas non plus se dégager du temps pour qu'on travaille tous les 2 mois, en fait. C'était... ça a été compliqué, quoi.
Et alors, comment t'as trouvé ton rythme ? Est-ce que c'est venu assez rapidement, finalement ?
Ça, c'est pas venu du tout rapidement, en fait. Ce rythme a été hyper long à trouver. J'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, juste après l'accouchement, il y a eu un moment, je sais pas si c'est hormonal ou si c'est... où je pense que j'ai dû vraiment... j'ai eu un contre-coup de l'euphorie de la naissance. Quelques jours après, je pleurais, j'étais pas bien et je savais pas expliquer pourquoi, quoi. C'était vraiment... Tout le monde me disait, mais c'est super, t'as eu un accouchement de rêve et tout. Et j'avais quand même eu un accouchement. Je veux dire, c'était quand même quelque chose d'hyper intense et tout. Et j'étais pas très bien. Puis après, j'avais cette fusion avec mon bébé. Et puis après, il y a eu ce retour au travail. Et après le retour au travail, en fait, ça a été très long pour trouver un rythme. Vraiment, très très long. C'est-à-dire que... j'ai demandé à mon corps beaucoup plus que ce que j'aurais dû, et à ma tête aussi. C'est-à-dire que je voulais rien lâcher, ni mon boulot. Je voulais travailler autant qu'avant, mais en même temps, je voulais être une maman proximale, maternante, allaitante. Donc je tirais mon lait, je mettais mon bébé chez la nounou, je travaillais, je me relevais la nuit pour travailler. Et par-dessus tout ça, il y a la maternité dans laquelle j'ai accouché qui a été menacée de fermeture. Et ça m'a vachement scandalisée, en fait, parce qu'entre-temps, mes amis m'avaient raconté leurs accouchements dans des maternités classiques où je réalisais qu'elles n'avaient pas du tout de choix sur la façon dont elles allaient accoucher. Et je me disais, mais en fait, on n'a pas de choix, il n'y avait que cet endroit dans toute la région où on pouvait aller pour accoucher autrement, et là, il n'y en aura plus. Donc je me suis aussi rajouté la mission de militer pour ça. Et finalement, la maternité à fermer dans des conditions voilà, chaotiques, quoi. Et puis on a dû déménager, enfin bon, et tout ça pour dire que quand mon enfant a eu à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, entre 1 an et demi, 2 ans, on a déménagé et tout, je pense que c'était le... Puis j'avais sorti un bouquin, j'étais partie en promo du bouquin, enfin voilà, j'étais vraiment épuisée, en fait, vraiment épuisée. Mmh. Il a fallu que je comprenne qu'il fallait que je lâche sur certaines choses et que c'était pas grave.
Oui. T'as fait un burn-out maternel.
En fait, on pourrait peut-être le diagnostiquer comme ça. Moi, je n'ai pas mis ces mots là-dessus, mais je suis allée voir un médecin un jour pour complètement autre chose. Et puis, il m'a dit, mais sinon, ça va dans votre vie? Et là, j'ai fondu en larmes. J'avais plus envie de rien. J'arrivais plus à avoir de plaisir à travailler. J'étais vraiment la tête dans le guidon, à plus savoir comment faire. J'allaitais encore mon bébé... qui se réveillait beaucoup la nuit, enfin voilà, c'était... Ça, c'est une torture quand même, d'être réveillée tout le temps la nuit, mais voilà. Je m'en demandais trop, en fait.
Mmh. Et du coup, t'as consulté quelqu'un ?
Ouais, ce médecin généraliste, hein, qui a eu une oreille, je pense que c'était vraiment... m'a parlé d'un psychothérapeute que je suis allée voir, qui était en plus un psychothérapeute qui avait une formation aux Beaux-Arts et tout ça, donc il comprenait vraiment mes problématiques de besoin de solitude pour retrouver ma créativité aussi. La solitude était très difficile à trouver en tant que maman. Et j'en souffrais, j'ai culpabilisé d'en souffrir en fait. J'osais pas dire non, j'ai besoin de moments pour moi. Et donc ça a été assez vite hyper aidant, quoi. Ça m'a vraiment aidée très vite. Puis après ça, j'ai trouvé des espaces. Pour moi, je me suis mise au surf, enfin voilà, ça a été mieux comme ça au fur et à mesure.
Et alors, vous avez décidé de faire un deuxième enfant ?
Ouais, c'est vrai que c'était un truc pour moi, j'avais envie d'un deuxième enfant dès le premier, quoi. En plus, l'accouchement s'était super bien passé, la grossesse aussi. Et ensuite, j'ai déchanté, quoi. Je me disais, mais non, je vais pas en être capable en fait. C'est trop de. J'arrive même pas à trouver un équilibre avec un enfant, alors avec deux, qu'est-ce que ça va être ? Et puis finalement, en retrouvant. Du temps pour moi, on me rendait compte que c'était possible d'avoir du temps pour soi et tout. Et puis, le papa avait aussi très envie d'un deuxième enfant. Donc, quand on s'en parlait, c'était... Moi, je freinais un peu parce que j'avais peur de revivre, de revivre ce moment un peu difficile. Et puis, quand je me suis rendu compte que non, c'était possible d'allier tout en étant plus douce avec moi-même, quoi... on en a fait un deuxième, quoi. C'était quand le bon moment était venu, on s'est dit allez, on y va. Et j'ai eu de la chance, je retombais enceinte très vite en fait. Ouais.
Et alors, vu que la maternité dans laquelle tu avais accouché pour ton premier enfant a fermé, comment t'as fait pour ton deuxième ?
Oui, c'était compliqué là parce que bon, déjà on avait déménagé, on n'habitait plus à Saint-Jean-de-Luz mais à Bayonne, mais ça c'était pas très grave. Mais la maternité avait fermé et en plus la sage-femme. Avec qui j'avais fait la première grossesse, ne pratiquait plus les accouchements en fait. Elle suivait plus les accouchements. C'est quelqu'un qui a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'elle-même. Elle est un peu comme moi. Elle est sans doute au-delà de ce qui était raisonnable de donner. Elle était seule à faire des accouchements à domicile pendant des années au Pays Basque. Ensuite, elle a été seule avec ce plateau technique. Et avec la fermeture de cette maternité, enfin tout ça, je pense que vraiment c'était trop démesuré pour elle. Et pour n'importe qui, ça l'aurait été, hein, c'est très compréhensible. Et du coup, je savais plus comment faire, parce qu'une autre maternité a donné accès à un plateau technique à des sages-femmes libérales, mais elle était encore très loin de chez moi. Elle s'était encore à 1 heure de route, mais cette fois-ci, au lieu d'être de l'autoroute, c'est une route sinueuse du Pays Basque, quoi. Et sachant que moi, ce que j'ai le plus mal vécu, en fait, dans mon premier accouchement, c'est vraiment cette distance, ce trajet-là, et l'arrivée à la maternité, en fait, ce changement de lieu qui, pour moi, a été compliqué. Je suis persuadée que si j'avais pu accoucher, par exemple, chez moi, j'aurais pas fait ce choix-là parce que j'étais mal informée que ça m'aurait fait peur d'accoucher chez moi. Mais j'étais persuadée quand même que je suis et je reste persuadée que ça aurait été mieux pour moi à cette époque-là de ne pas avoir ce trajet à faire et ce changement de lieu. Donc dès le début, cette idée d'aller à 1 heure de voiture de chez moi donc sur une route de montagne, ça me déplaisait, quoi. Mais c'est pourtant le choix que j'ai fait. Parce que il n'y avait pas de sage-femme qui vraiment pratiquait l'accouchement à domicile, sinon ça aurait été mon rêve en fait d'avoir une sage-femme qui m'accompagne pour qu'on accouche à la maison.
Et alors, pourquoi il n'y a pas de sage-femme qui...
Alors, il n'y a pas de sage-femme qui est... Il y en a une maintenant, hein, mais à l'époque, il n'y avait pas de sage-femme installée qui accompagnait les accouchements à domicile, tout simplement parce que depuis quelques années, c'est pas vraiment interdit d'accoucher chez soi, en France. En revanche, on demande aux sages-femmes qui font l'accompagnement de ces accouchements une assurance exorbitante, en fait, qui coûte 20 à 25 000 euros par an, ce qui est souvent même pas un chiffre d'affaires qu'elles génèrent avec leur pratique. Et donc, c'est rédhibitoire. Et donc, celles qui le font sont vraiment à la limite de la légalité, en fait. Elles le font vraiment par, par militantisme, par conviction. Et elles sont précieuses, parce que sinon, il y a des femmes qui n'ont tellement pas envie d'accoucher dans des structures médicalisées qu'elles accouchent seules, en fait. Donc voilà pourquoi moi, je n'ai pas eu l'envie, avec Fabien, de décider qu'on accouchait seul, sans surveillance du tout. Et donc, je me suis dit, bon, tant pis, ce trajet, on va s'en accommoder, quoi. Voilà.
Et t'as trouvé une sage-femme facilement ?
Ouais, j'ai trouvé une sage-femme facilement grâce à ma première sage-femme qui connaissait et qui avait formé, qui avait travaillé avec deux autres personnes qui avaient la force d'être deux, en fait. Elles ont ouvert un cabinet à deux, ce qui fait aussi que c'est quand même moins contraignant quand on est deux pour toutes les demandes, en fait. Serait-ce que, par exemple, pour prendre des vacances. Ma première sage-femme, elle avait vachement de mal à prendre des vacances parce que un accouchement, ça peut arriver un peu n'importe quand. Et voilà. Donc là, elles étaient deux. J'étais suivie par l'une d'entre elles, qui, pareil, s'est engagée à venir le jour de la naissance. Et elle voyait que j'étais très anxieuse, étant donné que mon premier accouchement s'est quand même passé vite, quoi. Comme j'avais mes ces contractions, mais que j'avais l'impression qu'il fallait que j'attende d'avoir mal pour me déplacer à la maternité, et que j'avais pas mal, en fait. J'ai attendu vraiment le dernier moment, et entre le moment où on est arrivé à la maternité et le moment où le bébé était là, il y avait une heure, quoi. Et encore, s'il n'y avait pas eu le trajet d'une heure entre les deux, je pense qu'il serait arrivé avant le bébé. J'ai eu vraiment l'impression de me retenir, en fait, pendant le trajet, quoi. Et donc, elle voyait que j'étais un peu anxieuse à cause de ce... que ça m'a embêtée, ce trajet-là. Et elle m'a dit, écoute, moi, j'habite pas très loin de chez toi. Donc, de toute façon, ce qui se passera, c'est que quand tu auras des contractions, je viendrai t'examiner. Je viendrai voir où t'en es. Et je viendrai avec vous. Donc, si jamais tu dois accoucher dans la voiture... je serai là.
Oui.
C'était quand même hyper sécurisant pour moi de me dire qu'elle serait là, quoi qu'il arrive. Quoi. Et donc, j'ai fait cet accompagnement avec elle. Pendant la grossesse, je me suis vachement renseignée parce que j'avais déjà un projet de livre sur le thème de la physiologie de l'accouchement. Donc, je me suis vachement renseignée sur la physiologie de l'accouchement, encore plus que ce que c'était le cas pour ma première grossesse. Et puis, j'ai fait un peu d'auto-hypnose pour me préparer à l'arrivée de mon bébé. Et à chaque fois que je faisais de l'auto-hypnose, j'imaginais un endroit d'intimité, parce que c'est hyper important pour accoucher bien d'être dans un endroit d'intimité. Et j'imaginais toujours ma salle de bain.
D'accord.
Et donc je me disais, le jour où je serai à la maternité, le jour de l'accouchement, je pourrais me mettre dans cet état d'auto-hypnose qui me remémorera ma salle de bain, un lieu intime. Voilà. Et le jour où, un jour est venu où j'ai commencé à avoir des contractions, ça a été long en fait pour le deuxième bébé. C'est-à-dire que j'ai eu des contractions, puis elles se sont arrêtées le lendemain. Puis voilà, pour le premier, ça a été première contraction, puis après ça s'est rapproché de manière très. Mais pour le deuxième, non, j'avais des contractions, puis après elles s'est arrêtées le lendemain, puis après j'avais à nouveau des contractions. Enfin voilà, ça a mis plusieurs jours comme ça. J'avais un boulot à finir aussi, donc j'ai eu une nuit où j'ai eu des contractions, comme pour le premier. Je me suis dit, ah non, faut pas que ça arrive cette nuit, j'ai pas fini mon livre. Alors je me suis relevée à minuit pour finir le bouquin, faire les fichiers et tout, les envoyer à l'éditeur. Après j'étais apaisée, donc je me dis, bon maintenant ça y est, il peut arriver. Donc j'avais plus de contractions, bon ok. Le jour d'après j'en avais encore un peu, comme ça. Et puis ma sage-femme m'a dit, parfois on est trop fatigué en fait. Le corps est prêt, mais il attend qu'on se repose un peu. Donc prends du temps pour toi, repose-toi vraiment peut-être pour autoriser ton corps à se dire, voilà, ça y est, on peut y aller. On est prêt à affronter cet événement intense. Et donc j'ai passé une journée à rien foutre, à regarder des séries et tout ça. Et ce soir-là, après ça, quand mon grand est rentré de l'école, enfin voilà, j'ai fait toutes les choses habituelles. Je lui ai lu des histoires et j'ai senti que j'avais de vraies contractions qui venaient. Je lui ai dit, tu sais, peut-être que demain matin, tu seras avec mamie, ou avec Céline, une copine qui devait venir, pour qu'on puisse aller à la maternité, etc. Je lui ai expliqué, et puis j'ai appelé la sage-femme, je lui ai dit, j'ai des contractions. Elle m'a dit, on était loin du terme encore, on était... à 15 jours du terme. Donc elle m'a dit, oui, bon, écoute, on a rendez-vous demain, donc j'ai un peu surprise, je lui ai fait, bon, ok. Et puis quand même, plus tard, je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu sais, j'ai quand même des contractions, là, et puis elle m'a fait parler longtemps, c'est une de leurs techniques aussi, pour voir si on s'arrête de parler quand on a une contraction, c'est que vraiment, on a une contraction. D'accord. Alors que si on continue à parler, à dire, ah oui, là, tu vois, je la sens, elle est comme ci, comme ça, bon, c'est que c'est pas encore vraiment ça, quoi. Et donc elle m'a fait parler assez longtemps. Et puis elle m'a dit, bon, écoute, là, je sors du sport, donc je vais me doucher et puis je viens chez toi. Et donc je me suis dit, ok, bah, moi aussi, je vais me doucher alors. Sauf que j'ai pas pris une douche avec la lumière plein crue et tout ça. J'étais assez renseignée pour savoir ce qu'il faut faire pour rendre les contractions tout à fait agréables, quoi. Enfin,
supportables.
Mais j'avais presque envie de dire agréables parce que c'est quand on les vit... voilà, ben bref. Et donc j'ai mis une petite lumière tamisée, parce qu'il faut savoir que ça aide, ça, d'avoir une lumière tamisée. Dans ma salle de bain, j'ai mis une petite guirlande. Je suis allée sous la douche, j'ai mis de l'eau chaude. J'ai commencé à faire des 8 avec mon bassin, comme ça, à chantonner un peu, voilà. Et puis j'ai fait ça totalement bien, que en fait c'est trop bien. C'est-à-dire que ça allait un peu trop vite, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit... En fait, j'ai voulu appeler Fabien, qui était dans l'appartement. Je me suis rendu compte, en voulant l'appeler, que j'avais envie de pousser, quoi. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire « Fabien, Fabien !» Je sentais que ma voix se déformait un peu. Et il est venu, et là, il a été vraiment super, parce que s'il avait paniqué, je pense que ça aurait été complètement différent. Et je lui ai dit « Je crois qu'on va pas aller à la maternité. » Et là, il m'a dit « Ok.
Ok, regardé. Je gère. »
Ben, regardez, ben, ok, ben, en gros, comme tu veux, quoi. Et puis, il est reparti. Et donc là, je pense que ça m'a autorisée à rester complètement dans ma bulle. Et je savais que la sage-femme était en route, et que mon mec était ok, et que le grand dormait à côté.
Ah oui, il dormait, c'était le soir, du coup.
Ouais, je venais de le coucher, de lui raconter l'histoire, et de l'endormir, quoi. Et du coup, en fait, il y a eu quand même, malgré ça, un moment de panique qui est complètement normal. Hein, je voudrais le dire à tes auditrices, c'est que quel que soit l'accouchement qu'on vit, il y a toujours un moment où on panique. Ça s'appelle la phase de désespérance. Et si on est avec quelqu'un à côté qui panique aussi, ou dans une structure où on nous propose une péridurale, c'est le moment là, alors qu'on a fait tout le plus difficile. Le plus difficile, c'est pas la poussée. Le plus difficile, c'est vraiment les contractions avant, en fait. Et ça, on le sait pas forcément. On a vraiment peur de que le bébé passe, en fait. Parce que c'est impressionnant. Je veux dire, un bébé va passer par là. C'est quand même un truc un peu assez incroyable. Mais en fait, c'est pas ça le moment le plus difficile. Quand on n'a pas de péridurale. C'est vraiment le travail avant, quoi. Et donc, je sais plus pourquoi je te dis ça. Ouais, il y a toujours un moment où on panique. Et si on est avec quelqu'un qui connaît ça, et qui te dit... ça va, c'est très bien ce que tu fais, et qui est calme, en fait, ce moment de panique passe très vite. Et moi, je savais ça, donc même si j'étais toute seule dans ma salle de bain, j'ai commencé à dire « je vais pas y arriver », un peu de la même façon que j'avais dit « au secours » pour le premier. Et puis j'ai entendu que la sage-femme arrivait, que Fabien descendait pour lui ouvrir, et donc je me suis surprise et j'ai dit à haute voix « je vais y arriver », sauf que j'étais bon. C'est un peu dans une situation inconfortable dans ma baignoire qui n'est pas comme une baignoire qu'on a dans les maisons de naissance qui sont faites pour accoucher. C'est une baignoire étroite et tout, donc je ne voyais pas dans quelle position me mettre, en fait. Je visualisais mon bébé qui glisse dans la baignoire et qui se cogne contre la faïence. Enfin, un truc pas très cool, quoi, pour recommencer sa vie. Donc, je suis sortie de la baignoire, la sage-femme est arrivée, et elle m'a dit « ton bébé arrive, très vite ». Enfin, voilà, je ne me souviens plus exactement... Et là, elle a demandé à Fabien d'appeler le SAMU. Et le bébé est arrivé, le SAMU a entendu le bébé crier au téléphone, quoi. Ça, C'est, en fait, ma sage-femme, après, disait « Oh, Lucie, elle accouche en 4 minutes. » Parce qu'elle est arrivée, et 4 minutes après, le bébé était là, quoi.
Et alors, toi, t'étais dans ta baignoire, il y avait de l'eau
Non. Comment ? J'avais pris une douche dans la baignoire.
Ok.
Et donc, l'eau s'est coulée. Et j'étais debout, parce que je pouvais pas être accroupie, les jambes écartées dans la baignoire, trop étroite. Tu vois ? Okay. Donc, je suis sortie de la baignoire, et je me suis appuyée contre le rebord de la baignoire, en fait, pour
la pousser. D'accord. Et c'est la sage-femme qui a attrapé l'enfant.
Voilà.
Waouh.
Et j'avais sans doute les genoux pliés. Donc, le bébé tombe, enfin voilà, mais la sage-femme a attrapé le bébé, quoi. Elle m'a dit, ton bébé est là, Fabien était au téléphone, le bébé a fait son premier cri, et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un café dans la rue où on va souvent, avec une serveuse qu'on connaît à force d'y aller, et quand Fabien a dit, oui, bah, il est né, et tout ça, il est né à la maison, dans la salle de bain, la serveuse a dit, oh, mais c'est vous, ma mère travaille au SAMU, au standard, et elle a eu un coup de téléphone, elle m'en a parlé, parce qu'ils ont pas des choses très rigolotes, en général, au téléphone, alors un bébé qui naît en direct au téléphone, c'était un événement hyper chouette pour eux, donc c'était marrant, quoi. Voilà, donc il y a eu vraiment ce moment, oh, en apesanteur. Moi, le coup du SAMU, j'ai pas trop calculé sur le moment, quoi, qu'il avait appelé. Mais voilà, je me suis assise, on m'a mis plein de coussins, les serviettes et tout. J'ai pris le bébé sur moi, il a tété, j'avais Fabien à côté de moi, la sage-femme dans un coin. J'étais hyper bien, quoi, rencontre avec ce bébé. Vraiment, je sais pas combien de temps ça a duré, mais un moment d'extase. J'ai dit quand même, c'est vrai, un moment... Enfin, ouais, merveilleux, quoi. Un truc, ça pouvait pas se passer mieux, quoi. Et puis, soudain, la porte qui s'ouvre, les pompiers qui arrivent, le personnel de l'ambulance, la lumière qui s'allume, des visages de gens qui se mettent tout près de moi. « Bonjour, madame !» Bon, ça a un peu changé d'ambiance, mais en même temps, ça restait super joyeux, quoi.
Et ce qui est génial alors, c'est que pendant tout ce temps-là, ton grand, lui, il dormait.
Ah non, mais c'est incroyable.
Profondément.
C'est-à-dire qu'un enfant qui a mis 2 ans à faire ses nuits quand même, que quand on l'endormait, on devait repartir en sachant exactement quelle latte du plancher craquait parce qu'il risquait de se réveiller et tout ça, là, il a rien entendu, quoi, de moi qui dis « je vais pas y arriver », puis « je vais y arriver », de la porte qui s'ouvre, qui claque... du bébé qui pleure, ensuite les pompiers qui arrivent et le camion de pompiers dans la rue, tout ça. D'ailleurs, je crois que le truc qui est le plus déçu, c'est pas de pas voir arriver son frère, c'est de pas voir le camion de pompiers dans la rue. Mais non, il s'est rendu compte de rien du tout. Rien du tout.
Et donc, ils t'ont emmené à la maternité ?
Et donc, on m'a emmené à la maternité. On a un peu traîné parce que ma belle-mère n'était pas arrivée. Il fallait quand même quelqu'un pour garder le grand, même s'il dormait. Voilà. Donc, Fabien, on lui a proposé de couper le cordon. Il a tardé, il a fait comme s'il n'arrivait pas. Ça, il me l'a raconté après, parce que moi, je ne m'en suis pas du tout rendu compte. J'étais vraiment en train de regarder mon bébé. Hein. Mmh. Il mettait les gants, il faisait comme s'il n'y arrivait pas bien. Enfin voilà, il a essayé de gagner du temps au maximum jusqu'à ce que ma belle-mère arrive. Et puis de toute façon, ma sage-femme, elle passait la main là. Elle pouvait pas aller à la maternité avec nous vraiment, même si elle est venue, elle pouvait pas rentrer dans les salles et tout ça. Donc elle est restée aussi un peu à la maison. C'est elle qui a mis de l'ordre en fait, qui a fait que quand je suis rentrée dans la salle de bain après, ou quand ma belle-mère était rentrée dans la salle de bain, tout était nettoyé. Enfin, c'est une bonne fée, quoi.
Elle a coupé le cordon. Vous avez coupé le cordon à ce moment-là ?
Ouais, Fabien a coupé le cordon. C'est la sage-femme a fait couper le cordon à Fabien dans la salle de bain, ouais.
D'accord, ok.
Donc je ne sais pas te dire combien de temps tout ça a pris en fait. Mais je sais que ma belle-mère elle habite à 2h30 de route quand même. Donc on l'avait appelée au moment où. Ma sage-femme m'avait dit je prends une douche et j'arrive, mais bon, elle avait quand même voilà, donc on a quand même mis du temps, quoi. Et après on est arrivé à voilà, Fabien a pris le bébé dans les bras avec en mitouflé dans des tissus là, on m'a descendu dans un fauteuil là, de pompier, hein, fauteuil roulant ou je sais pas quoi. J'ai croisé ma belle-mère, les larmes aux yeux, on était toutes... Parce qu'elle a eu hyper peur, elle est arrivée, elle avait les pompiers et tout en bas, elle s'est dit qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, c'était plein d'émotions, quoi, vraiment. Et quand on est arrivé à la maternité, là j'ai découvert ce que c'était en fait une salle d'accouchement classique, on va dire. Et ça m'a pas fait regretter de de pas y avoir eu affaire avant, quoi. Et en même temps, je trouve ça hyper bien que je l'ai vu, parce que comme j'ai fait un livre là-dessus aussi, malgré le fait que j'avais eu quand même des témoignages et tout, le fait de le vivre et d'arriver et que tout d'un coup il y ait 6 personnes inconnues dans la pièce qui discutent, voilà, parce que même s'ils étaient pas malveillants du tout, hein, ce truc, bah, on m'a mis les jambes dans les étriers, on m'a demandé de pousser pour le placenta, tout ce qui n'avait pas du tout été le cas pour mon aîné, on m'a pas demandé de pousser, quoi. On m'a juste laissé regarder mon bébé, et puis les dernières contractions ont évacué le placenta, j'en suis même pratiquement pas rendu compte, quoi, en fait. Et ce truc où on a tiré un peu sur le cordon pour voir si c'était encore accroché ou pas, enfin voilà, tout ce truc-là que j'ai trouvé hyper intrusif et très désagréable, je suis quelque part contente, entre guillemets, parce que j'ai envie de me le dire comme ça aussi, de l'avoir vu, quoi, de l'avoir compris et vécu pour pouvoir en parler après, voir la différence, quoi.
Et alors justement, parlons-en de ce livre. Alors comment est né ce projet, donc de tout ce que tu as vécu, donc tout ce que tu viens de raconter ?
Je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. En fait, je fais tout, quoi, les scénarios, les dessins, les couleurs. Et suite à la menace de fermeture de la maternité dans laquelle j'ai accouché de mon premier enfant, j'avais fait des notes de blog pour expliquer pourquoi c'était hyper important, en fait, d'avoir des lieux qui permettent aux femmes d'avoir un vrai choix sur la façon dont elles veulent accoucher. Et notamment, j'avais parlé des positions de l'accouchement.
Quand donc sous forme d'illustration.
Ouais, voilà, j'avais fait des notes de blog et avec des illustrations et même des petites animations GIF, en fait, pour expliquer. Ça me tenait hyper à cœur, quoi. Je dormais, mon bébé ne faisait pas ses nuits, j'avais plein de boulot et tout, mais ça me faisait me relever à 14h du matin. Je me disais non, il faut faire quelque chose, je trouve ça trop scandaleux. En plus, j'avais vraiment des amis proches qui avaient vécu des accouchements traumatiques dans les maternités ailleurs, quoi. Et donc je me disais, c'est vraiment trop important, quoi. On fait du mal aux femmes, il faut qu'elles soient informées, il faut qu'elles aient le choix, un vrai choix éclairé, pas juste est-ce que vous voulez une péridurale ou est-ce que vous n'en voulez pas. Enfin, ça, pour moi, c'est pas un vrai choix, c'est pas une question logique. C'est-à-dire, si on est mis dans des conditions qui favorisent pas du tout la descente de notre bébé et qui provoquent des douleurs, une fois qu'on a cette douleur, nous dire est-ce que vous voulez une péridurale ou est-ce que vous n'en voulez pas, je veux dire, c'est pas juste, quoi. Évidemment qu'on la veut dans des conditions comme ça, où on est dans la pire des positions qui soit pour accoucher, où le bébé il est bloqué dans une position et donc il fait mal parce que les contractions ne l'aident pas du tout à progresser, parce que voilà, c'est pas favorisé. Oui, là, évidemment, quand on veut une péridurale, quoi. Sauf que la péridurale, après, ça induit des souffrances après l'accouchement. C'est-à-dire que déjà pendant l'accouchement, on ne sent plus rien, et parfois on nous fait une épisiotomie, parfois on ne nous prévient pas. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont induites, en fait, de cette mauvaise information, par cette mauvaise information, que je trouve scandaleuse, enfin, que je trouve vraiment dommage qu'on ne soit pas mieux informé et mieux encadré. Donc bref, ça faisait que, pour moi, c'était très important. J'avais fait ces notes de blog, et suite à ces notes de blog, j'ai eu des propositions éditoriales. Parce qu'elles ont beaucoup tourné sur internet, etc. Mais je voyais que même les éditeurs qui me contactaient voyaient pas trop bien de quoi je parlais, en fait. Ils trouvaient ça intéressant, mais soit ils y voyaient un sujet polémique pour faire un buzz en se disant ah tiens, ça peut être un peu touchy, mais en même temps ça peut être un... Voilà, et moi je suis pas une polémiste, quoi. Moi je fais de la bande dessinée hyper tendre, rigolote. Enfin, mon métier c'est de faire des blagounettes, quoi. de la poésie dessinée, quoi, on va dire. Et je me sentais pas du tout légitime pour. Enfin, puis voilà, pour moi c'est pas un sujet clivant, quoi. Ça doit pas être un sujet clivant. Pour moi, chaque femme devrait avoir, en fonction de son histoire, la possibilité soit de décider dès le départ qu'elle est sûre de vouloir une péridurale, etc., soit de décider dès le départ qu'elle n'en veut pas, mais d'être informée vraiment de tous les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est tout, quoi. Faire un vrai choix, du coup, parce qu'on sait. Et pas de jugement, et pas de... Voilà, je suis pas contre la médecine, je suis pas contre les gynécos, je veux pas qu'on accouche dans la douleur, entre un bœuf et un âne. Voilà, donc je me sentais pas de faire travailler avec ces éditeurs là et un jour il y a un éditeur qui m'a contacté et lui j'ai compris qu'il savait de quoi je parlais, en fait. Il faisait pas de bande dessinée, mais il avait déjà publié cette maison d'édition avait déjà publié des livres sur le thème de l'accouchement, la physiologie de l'accouchement, notamment une sommité dans ce domaine international, quoi. Ina May Gaskin, qui est une sage-femme américaine très, très, très reconnue, quoi. Et donc, ils savaient très bien de quoi je parlais. Et eux, quand ils m'ont contactée, je me suis dit... Pas tout de suite, hein. J'ai mis un moment à être convaincue, mais ils ont su me convaincre. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est vrai, c'est un super beau sujet, hyper important. Et donc, il faut s'en emparer, quoi. Et sauf que c'était tellement beau et important que je m'en faisais toute une histoire, je me sentais pas légitime, j'étais ni gynéco, ni sage-femme, ni même journaliste. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour me renseigner et être vraiment convaincue à 100% que ce que j'allais dire était... avéré et scientifiquement prouvé, etc., avant de m'en emparer vraiment.
Et donc le livre s'appelle « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs ».
Ouais.
C'est quoi le message ?
Le message, c'est qu'au lieu d'être le sexe faible qui a besoin de tout un attirail médical pour mettre au monde son enfant, les femmes sont fortes en fait. Elles sont hyper fortes, elles donnent la vie, quoi. Et qu'au lieu de sortir de son accouchement incapable de mettre au monde son bébé, donc ensuite incapable de l'élever, en fin de compte, incapable de devenir mère, symboliquement, c'est quand on sort de son accouchement en se disant qu'on a été sauvé par la médecine, c'est pas pareil, on se sent incapable, en fait. Mon message, c'est que non, on est capable. Et donc, derrière, on peut se faire confiance aussi, quoi, sur le reste...
On peut reprendre le pouvoir sur son accouchement.
On peut reprendre le pouvoir sur son accouchement, ça veut pas dire...
Quelle que soit la décision, finalement.
Voilà, ça veut pas dire refuser complètement tout ce qu'il va nous être proposé. Non, ça veut dire être vraiment partie prenante de ce qui se passe, quoi.
Mmh. Et alors, du coup, ça t'a pris combien de temps et qu'est-ce que t'as fait pour faire toutes tes recherches pour ce livre ?
Ce livre, il m'a pris du temps, mais pas vraiment en temps effectif de travail. J'avais besoin, au-delà des renseignements qu'il fallait que je prenne, de me sentir légitime pour le faire. Et quand on en a parlé la première fois, j'avais pas mon deuxième enfant. Je sortais de ce moment un peu difficile dont je t'ai parlé tout à l'heure, donc... j'étais à fond sur le surf, quoi. C'est-à-dire, j'avais envie de faire un livre sur le surf à ce moment-là, quoi. J'étais plus dans un délire de grossesse et tout ça. Donc, c'était un peu en décalage avec mes préoccupations du moment. Puis, bon, je suis tombée enceinte du deuxième enfant. Et là, ça m'a remise dedans. Donc, j'ai du mal à dire combien de temps il m'a fallu. Mais il m'a fallu du temps, quand même. Surtout pour me dire, non, mais c'est OK que tu parles de ça, en fait. T'as le droit de le faire. T'as le droit de prendre la parole. Sur ce sujet, tu t'es assez renseignée, t'as deux enfants, tout ça. T'as un enfant et un deuxième. J'ai pris plein de témoignages de femmes autour de moi. Donc, et puis, j'ai revu la première sage-femme avec qui j'avais fait mes cours de préparation à la naissance. Et je lui ai demandé si je pouvais retourner la voir pour assister aux cours de préparation à la naissance qu'elle faisait. Parce qu'elle ne suivait plus les accouchements, mais elle faisait encore des cours de préparation à la naissance.
D'accord.
Et donc j'ai réassisté à quelques cours de préparation à la naissance qu'elle faisait. Et c'était génial parce que là où moi j'avais eu accès à ces cours-là parce que dans l'optique qu'elle vienne le jour de l'accouchement, là elle donnait des cours à des gens qui allaient accoucher en structure hospitalière en fait.
Oui.
Et donc ces cours avaient sensiblement changé. C'était pas les mêmes. Par exemple, il y a des protocoles dans les structures médicalisées qui sont pas là quand c'est elle qui accompagne l'accouchement. Et donc, elle explique quoi. Bon, on va certainement vous dire que vous n'avez pas le droit de boire, par exemple. Mais ça, c'est infondé, en fait. On a le droit de boire. Donc, elle explique pourquoi. Elle explique comment on peut pousser, même si on a une péridurale, comment on peut pousser en préservant ses organes. Parce que, je sais pas si je t'en ai parlé, mais un des effets secondaires de la péridurale, c'est qu'on sent plus quand il faut pousser. Donc, on nous fait pousser en apnée, le fameux pousser, madame pousser. Et quand on pousse en apnée, on fait descendre. On pousse le bébé vers l'extérieur, mais on pousse aussi ses organes vers l'extérieur. Alors que quand on n'a pas de péridurale, on ne se pose pas la question de quand pousser, parce que c'est un réflexe. Ça vient tout seul, quoi. On est obligé, on ne peut pas faire autrement. Et le réflexe de pousser, c'est un souffle, en fait. Ce n'est pas une poussée. On souffle son bébé, on le démoule. En soufflant, on fait comme font les sportifs quand ils font un effort. On connaît ce truc des tennismen ou des tenniswomen qui font « Ah !» quand ils tapent dans son... Bon, on n'est pas choqués en France qu'un tennisman crie
quand il tape dans une balle, mais qu'une femme crie quand elle accouche, ah, ça fait vachement peur, en fait. Alors que non, le fait qu'elle crie, qu'elle souffle comme ça, ça fait remonter ses organes, et ça les protège. Et ça pousse en revanche le bébé vers le bas. Ça fait donc le bébé est démoulé, et les organes sont préservés. Donc c'est très différent. Quand on est en sous-péridural, on pousse en apnée, et nos organes, on les pousse aussi vers l'extérieur. Donc il y a plein de femmes qui se retrouvent incontinentes, avoir des problèmes ensuite de fuite urinaire, etc. Parce qu'elles avaient une péridurale trop forte, en fait. Ça, on le sait pas trop. Et donc la sage-femme expliquait ça, expliquait comment faire pour pousser, même avec une péridurale, pour préserver ses organes. Ce que j'expliquerai dans le tome 2 du livre.
Oui, parce que du coup, il y a le tome 2 et un tome 3 qui sortira, c'est ça?
Voilà, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et même dans les trois tomes, j'aurais pas le temps de tout dire. Mais je voulais que ce reste un livre léger, facile à lire, accessible pour tout le monde et tout. Et donc j'ai préféré scinder en trois parties. Je me dis, ceux qui auront... Il y a déjà pas mal d'infos dans le premier. Et ceux qui auront envie d'aller plus loin pourront aller se pencher sur le tome 2. Et le tome 3, c'est vraiment l'idée de... Le tome 3, le premier s'appelle « Découvrez vos super-pouvoirs ». Donc c'est la base de ce qui se passe dans le corps quand on accouche et de comment faire pour faciliter ça. Et le tome 2, c'est « Amplifier vos super-pouvoirs ». C'est donc voilà, apprendre les positions qu'il faut favoriser, la respiration, cette histoire-là de pousser, comment, ce que peut faire l'entourage aussi pour être aidant dans le... La naissance, le papa souvent est un peu démuni. Les hommes, ils aiment bien parfois se sentir utile, quoi. C'est normal quand on aide quelqu'un. et bon, parfois, ils sont un peu sur la touche et c'est très stressant aussi pour eux. Donc ça. Et le troisième sera un peu particulier parce que c'est propager vos super pouvoirs. Et c'est l'idée que moi, j'ai vraiment ressenti en suivant des groupes de femmes qui viennent raconter leur accouchement. C'est que pendant toute ma grossesse, la deuxième grossesse, je me suis nourrie de ces récits d'accouchement et qu'en fait, la culture populaire manque énormément d'idées, de témoignages sur l'accouchement qui respectent la physiologie, l'accouchement naturel et tout. C'est-à-dire que dans les films et même les bouquins, on est quand même dans une culture très masculine, hein, on se rend pas compte, hein, mais souvent, on voit... La mère qui fait comme ça, il y a un montage hyper rapide, et la semaine d'après, on voit le bébé qui sort, qui crie, et la femme qui est en sueur. Voilà, on comprend rien de ce qui s'est passé. Et on n'a pas de témoignage vraiment de...
C'est assez anxiogène.
Ouais, et en fait, on est très, très, très influencé par la culture. Et de se nourrir vraiment de témoignages différents, moi, je pense que vraiment, ça m'a aidé... pour accoucher de mon deuxième enfant. Et donc, c'était dans cette idée-là que j'ai envie de raconter, moi, mes propres accouchements, et aussi de donner des petites clés de narration. Alors ça, c'est le fait que ce soit mon métier de raconter des histoires. J'aimerais bien que ce troisième tome soit l'occasion pour les femmes qui vont lire le livre, qui ont accouché, ou les papas même, ou l'entourage, c'est de raconter leur histoire. C'est-à-dire, quel que soit l'accouchement qu'on a vécu, de le sublimer, en fait. D'en faire un moment dont on sort plus fort, dont on sort plus forte. C'est-à-dire que même bon, si on a eu un accouchement qui s'est super bien déroulé, exactement comme vous voulez, parfait, savoir comment l'organiser pour en faire une chouette histoire. Mais si on a eu un accouchement... où il y a eu une césarienne d'urgence, par exemple, ou des suites de couches compliquées, etc. Au lieu de se dire, oh là là, j'ai pas été capable de pousser, mon bébé, il progressait pas, jeune, tous ces trucs très culpabilisants qu'on peut ressentir parfois, j'aimerais donner des clés pour dire comment se re-raconter l'histoire, la revisiter à la lumière de tout ce que j'ai expliqué dans le tome 1 et le tome 2, pour se dire, malgré tout ça, j'ai su créer un lien avec mon bébé, j'ai su me relever de ça, mon conjoint, ma compagne, je sais pas, était là pour moi, l'amour a été renforcé, enfin, tu vois, de faire en sorte que, je sais pas, il peut se passer plein 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 de choses, c'est un moment hyper symbolique, et de faire en sorte qu'on puisse se re-raconter son histoire de façon à ce que bah, ce soit nous qui soyons vainqueurs, en fait, en équipe, oui. Avec son bébé.
Oui, voilà. On a donné la vie,
tout de même. Ouais, voilà.
Mais du coup, oui, ton livre, moi j'ai eu la chance de recevoir le tome 1, il se veut très rassurant.
Ouais.
Justement, sur tout l'inconnu de l'accouchement non médicalisé. Ça fait du bien en fait.
Ouais, c'est-à-dire que pour moi, c'est important de rassurer les femmes sur les capacités liées à leur corps parce que on est quand même dans une culture de tu accoucheras dans la douleur. Qu'on soit croyant, chrétien ou pas, c'est omniprésent. Hein. Il y a vraiment cette idée très très forte. Et aussi dans la culture, on est habitué à penser que notre corps est défaillant, qu'il n'est pas au point en fait. Le corps des femmes, il faut enlever ses poils, avoir des poils ça va pas, avoir de la cellulite ça va pas, avoir le sein trop petit ça va pas, alors qu'en vérité, ni avoir des poils, ni avoir de la cellulite, ni avoir des seins petits sont une entrave à la bonne santé et à la vie en fait.
Ouais.
Et donc, à longueur de magazine féminin, on nous explique comment rééquilibrer notre silhouette avec des vêtements. Hein, sous-entendu que sans vêtements, notre corps, il n'est pas équilibré, quoi. Et en fait, tout ça, ça participe vraiment à faire en sorte que, en particulier le jour de l'accouchement, on accepte l'idée que notre corps, il ne va pas être OK, quoi, en fait. C'est pas au point. On va avoir besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment une vision d'une médecine héritée d'une médecine masculine, en vérité. Les femmes étaient mises à l'écart de la médecine. Donc d'un point de vue d'homme, tout ça, c'est une femme qui crie quand elle accouche, waouh ! C'est... Mais oui, ils savent pas pourquoi... Enfin, à l'époque, ils n'ont pas compris que pourquoi le cri était aussi... Ou le souffle, tout le monde ne crie pas de la même façon. Était... Enfin, tu vois, il y a vraiment... Et moi, ce que j'avais envie de dire aux femmes, c'est non, votre corps, il est OK, en fait. Et ce qui n'est pas OK, c'est parfois ce qui est mis autour pour soi-disant prévenir les risques, qui en provoque. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que la connaissance de la physiologie réapparaisse plus dans l'accompagnement de la naissance, tout en gardant quand même les connaissances sur les risques et la pathologie. Parce que ce serait bien que les deux fonctionnent de concert en meilleure intelligence, c'est-à-dire qu'on laisse la physiologie opérer, et que s'il y a un problème, on sache intervenir en cas de pathologie, mais que ce soit pas en prévenant les risques de la pathologie, parce que de toute façon, ça marche pas très bien, ton truc, là. Donc, de toute façon, c'est un peu pathologique, quand même, de donner naissance.
Ouais.
C'est un peu, y a du sang, il y a des cris, là. C'est pas au point, quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment transmettre ce truc. Ouais, qu'on est au point, en fait.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Être maman, ça a été pour moi un vrai tourbillon. Non, mais c'est vrai que je me rendais pas compte avant d'être maman à quel point ça allait me bouleverser, quoi. J'avais une copine qui m'avait dit, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je lui avais demandé qu'est-ce que ça a changé, est-ce que tu te sens différente, et elle m'avait dit je suis moi en mieux. J'avais trouvé ça hyper joli. Et en vérité, je trouve qu'elle a raison, j'ai l'impression d'être moi en mieux. C'est-à-dire que pour moi, et c'est vraiment hyper subjectif ce que je dis là, je pense qu'il y a des tas de personnes qui peuvent avoir des prises de conscience similaires sans devenir parents. C'est vraiment très très personnel. Mais pour moi, devenir maman, ça a été vraiment un gros gros booster de développement personnel, quoi. Un gros outil de connaissance de soi, parce qu'avant, j'avais des tas de trucs un peu de traviole. Je m'en accommodais en me disant « ouais, voilà, je suis comme ça, quoi ». Et sauf que avec un enfant, je me suis rendu compte de ce que j'avais envie de transmettre, et puis je me suis aussi rendu compte qu'on transmettait plus par mimétisme, par l'exemple, que par les discours qu'on pouvait avoir, quoi.
Mmh.
Et donc si j'avais envie qu'il ait confiance en lui, par exemple, j'avais plutôt intérêt à travailler sur ma propre confiance en moi, en fait. Parce que c'est comme ça que j'allais l'autoriser peut-être plus facilement à lui avoir confiance en lui, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je lisais vachement de livres sur la parentalité bienveillante et positive, et donc il faut pas faire ci, il faut faire ça, etc. Et parfois, c'était vachement compliqué. Et un jour, j'ai compris que la bienveillance, elle commence par être bienveillant vis-à-vis de soi-même, quoi. Ce moment, le problème, c'est qu'il a fallu que j'en arrive à un épuisement total pour pouvoir me l'autoriser, quoi. Donc, si vous pouvez faire autrement, faites autrement, quoi. Mais ouais, on peut pas être bienveillant vis-à-vis des autres si avec soi, on est impitoyable, quoi. Si on se pardonne rien, si on s'autorise pas de l'espace, c'est pas possible, quoi. Donc ouais, ça a changé ça chez moi maintenant, de vouloir progresser vachement.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Ouais.
C'est quoi pour toi être une maman basque ?
Être une maman basque ? Alors moi je suis basque d'adoption, hein. Je suis pas née au Pays Basque. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'avais quand même pas mal voyagé avant d'être maman. Et j'avais vraiment dû beaucoup beaucoup de mal à me sédentariser. Avec le métier que je fais, je peux travailler n'importe où, il suffit que j'ai une connexion internet. Donc j'ai passé des années à faire 3 mois dans un endroit, 3 mois dans un autre, quoi. 3 mois à Madrid, 3 mois en Inde, 3 mois en Californie, 3 mois. Et au moment où j'ai habité au Pays Basque, je me suis dit, oh, c'est cool, quoi, c'est la maison, je connais bien la France. Hein. J'ai déjà habité à Toulouse, à Paris, à Bordeaux. Et en fait, j'ai été dépaysée. Le Pays Basque, il y a vraiment une culture hyper singulière. Il y a des noms de rues que j'arrivais pas à prononcer, quoi. Les gens me donnaient leurs prénoms et j'arrivais pas à les retrouver sur les réseaux parce que je savais pas les orthographier. Enfin, et il y a plein d'événements qui sont en lien avec la culture basque et tout. Et donc, être une maman basque, c'est génial pour moi parce que j'aime découvrir des choses que je connais pas, et c'est un puits sans fond culturellement, avec la proximité avec le Pays Basque Sud, l'Espagne, et tous ces paysages différents de montagnes, d'océans, etc. Et en même temps, ça a été un peu compliqué pour moi parce que je connaissais personne au Pays Basque en arrivant, et donc j'avais pas particulièrement d'amis. Et quand on est maman déjà, ça a tendance à isoler de ses amis qui n'ont pas d'enfants. J'ai un métier hyper solitaire qui n'amène pas vraiment à rencontrer des gens. Et en plus, au début, j'habitais vraiment isolée au bord de l'océan, donc c'était magnifique, mais j'étais quand même très seule, quoi. Et maintenant, c'est beaucoup plus joyeux parce que j'arrive à faire un réseau et tout. Donc, être une maman basque, c'est avoir l'occasion de proposer des choses hyper variées à ses enfants, quoi. Culturellement parlant, mais aussi en activité d'extérieur. C'est vraiment chouette, quoi. Je changerai plus d'endroit maintenant. Je suis sédentaire, ça y est.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré ?
L'endroit kids-friendly préféré... Alors après, ça dépend du kid. Parce que mon fils est né qui supporte pas la plage, en fait. Autant moi j'aime le surf et l'eau et les vagues, c'est hyper déroutant pour moi parce que je suis vraiment un canard qui a couvé un poussin, quoi. Ou une poule qui a couvé un canard, je sais pas comment on dit, mais bref. Un endroit kids friendly, il y a un truc que j'aime beaucoup au Pays Basque, c'est aller de l'autre côté de la frontière. Parce que d'autre côté de la frontière, j'ai l'impression, c'est déjà le cas un peu hein, à Bayonne par rapport à d'autres villes en France, mais dès qu'on passe la frontière, dès qu'on arrive de Hendaye à Fontarabie, dans les bars, etc., toutes les générations sont mélangées. Donc c'est très kid-friendly de l'autre côté de la frontière. Il y a des places entières où les gosses sont en freestyle total. C'est les enfants qui sont sur la place, qui courent, qui jouent avec des personnes âgées sur les bancs et des jeunes qui boivent des coups. Tout le monde est vraiment mélangé dans les bars, etc. Alors que c'est vrai que parfois, à Paris en particulier, dans les endroits comme ça où il n'y a pas beaucoup d'espace, on arrive avec son enfant, on a vraiment l'impression de déranger tout le monde, quoi. Tout le monde vous regarde d'un air de dire... ouais, c'est bon, nous on a payé la nounou pour qu'elle garde le petit ce soir, c'est pas pour avoir les gosses des autres, quoi.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, les projets rien que pour moi, c'est. Ah oui, c'est marrant que tu demandes ça parce que j'ai mon frère qui habite à Bucarest. Et qui va repartir de Bucarest dans moins d'un an, quoi. Enfin, début 2021, il s'en va. Et donc, je voulais absolument prévoir une visite. Je suis pas encore allée le voir, ça fait longtemps qu'il y est pourtant. Et donc, je regardais quand c'était possible, les histoires de logistique, les vacances scolaires, etc., pour y aller avec mes enfants, etc., machin. Et là, il y a pas très longtemps, j'ai réalisé que c'était vraiment trop compliqué. Et que peut-être j'allais y aller toute seule, en fait. qu'au lieu d'y aller 10 jours avec mes deux enfants, alors que le papa peut pas venir et que mon frère peut pas non plus se libérer un temps fou, que j'allais être avec mon petit de 1 an et demi et mon grand de 6 ans à devoir faire du tourisme avec, enfin voilà, que ça allait être compliqué. Je me suis dit, mais au lieu de faire ça, je vais y aller 3 jours, mais toute seule en fait. Et je vais voir mon frère en tête à tête, ce qui ne nous arrive plus jamais depuis qu'on a des enfants. Donc ça, c'est mon projet pour moi toute seule. Et projet en famille, eh ben, on est en train de faire des travaux dans un appartement qu'on a acheté, où il y avait tout à refaire. Et on finit la première phase des travaux là, on déménage à la fin du mois. Et donc pendant plusieurs mois, on va habiter tous ensemble dans la même pièce. Le temps que le reste des travaux se fasse. Donc c'est un beau projet familial, c'est de... de se respecter les uns les autres dans cet espace restreint. Je pense que c'est un super beau projet.
Merci beaucoup, Lucille.
De rien.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Lucille, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 49 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.